Et ce qu'on a vu dans notre rapport, c'est que ça fonctionne de différentes manières. Donc, il y a différentes caractéristiques de cette exportation d'or de contrebande. D'une part, on voit que dans certains pays, l'or est extrait dans des mines artisanales. Il passe par certains comptoirs, des bureaux d'achat ou par certaines raffineries locales. Et il est ensuite exporté directement du pays, souvent en contrebande, directement vers les Émirats arabes unis, où il est transporté en bagage à main par avion. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est aussi lié à la problématique de la non harmonisation fiscale justement entre les États africains, et c'est justement quand vous avez des pays limitrophes qui ont une taxe à l'exportation qui est plus basse, c'est ce qui favorise justement le fait que certains traders font passer l'or par voie terrestre vers les pays limitrophes, d'où l'or est ensuite exporté soit en contrebande ou alors déclaré à l'exportation et très souvent de nouveau en bagage à main avant d'arriver à Dubaï.
Selon votre rapport, le phénomène de contrebande d'or africain a plus que doublé entre 2012 et 2022. Quels sont les principaux facteurs qui ont contribué à cette augmentation?
Oui, on a vu vraiment une explosion, je dirais, de la production d'or au cours des dernières années, et lié à ça, évidemment, une forte augmentation de la contrebande de l'or qui a plus que doublé entre 2012 et 2022. Et tout ça est lié en grande partie au fait que le prix de l'or a augmenté massivement au cours des dernières années. En 2019, le prix d'un kilo d'or équivalait à environ 30 000 dollars. Et aujourd'hui, c'est plus de 70 000 dollars. Donc il y a eu un doublement du prix de l'or. Et c'est ce qui a créé une ruée vers l'or dans de nombreux pays, en particulier dans les pays du Sahel. On a vu que ça avait commencé avec le Soudan. Et ensuite, ça s'était propagé vers le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal. Et c'est ce qui fait qu'il y a énormément et même des millions de mineurs artisanaux en Afrique qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles.
Et quelles mesures spécifiques SwissAid propose-t-elle pour lutter contre ce trafic d'or? Quels sont les rôles des gouvernements africains, des entreprises internationales et des organisations comme la vôtre dans cette lutte?
Oui, je crois que pour arriver à mettre un terme à ces flux d'or illégaux, ou en tout cas à les réduire, il y a une responsabilité partagée. Il y a d'une part, évidemment, la responsabilité des États africains qui se doivent de s'engager dans la formalisation de cet or artisanal avec différentes mesures, notamment en améliorant l'accès au financement pour les mineurs d'or artisanaux, en essayant de mieux les encadrer au niveau de l'exploitation, de l'extraction de cet or en termes de sécurité, en termes de respect des droits humains, en termes de normes environnementales. Et ensuite, il y a évidemment toute la question des exportations, donc tous les contrôles au niveau des douanes. On sait qu'il y a énormément de problèmes de corruption aussi. Donc là, l'État doit faire évidemment davantage de contrôles. Ça, c'est le côté africain. Et ensuite, il y a évidemment la responsabilité aussi des États importateurs, en particulier les Émirats arabes unis, mais aussi la Suisse, qui se doivent d'une part de faire davantage de contrôles sur cet or qui arrive sur leur territoire, mais aussi d'obliger les sociétés importatrices, notamment les raffineries, à exercer un devoir de diligence pour contrôler l'origine de l'or et de savoir comment cet or a été extrait. Donc c'est vraiment une responsabilité partagée entre d'un côté les États africains, les États importateurs et évidemment le secteur privé qui joue un rôle très important. Mais encore une fois, les standards de l'industrie ne fonctionnent pas, il y a énormément de lacunes. Donc c'est vraiment la responsabilité des États qui se doivent de prendre les mesures nécessaires pour encadrer ce secteur.